La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bienvenue sur Fréquence T, la web radio des territoriaux, et un grain de causette consacré pour cette séquence au réseau de lecture publique. On a intitulé les réseaux de lecture publique. Tout le monde y gagne, vous verrez que cette phrase de marketing fait véritablement sens et que notre invité de ce jour, Dominique Lahari, s'est évertué à la répandre lors de ses nombreuses interventions sur le sujet. Alors, penser réseau en matière de lecture publique, c'est aujourd'hui vraiment un principe directeur, certains diraient un sens de l'histoire, hein, et un enjeu d'amélioration permanente des services rendus par la bibliothèque à la population, au plus près justement des bassins de vie dont on va reparler avec Dominique Lahari, dans un contexte de maîtrise des coûts évidemment. De nombreuses bibliothèques publiques donc s'organisent en réseau, des réseaux d'ailleurs qui ne sont pas nécessairement intercommunaux, hein. En prenant en compte la dimension territoriale des bassins de population, ces réseaux de lecture publique apportent de nombreuses plus-values, extension de l'offre de services aux usagers, optimisation des moyens, renforcement du lien social de proximité par l'action culturelle et l'accès à la connaissance. Donc on va passer en revue de l'état de l'art de cette question, hein, très actuelle des réseaux de bibliothèques, avec le spécialiste incontesté de la question, j'ai nommé Dominique Lahari. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Thibault.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Dominique, vous êtes un bibliothécaire engagé, donc retraité depuis 2013, après avoir été directeur de la bibliothèque départementale du Val-d'Oise. Vous êtes titulaire du CAFB qui a formé tant de bons professionnels, qui m'ont à leur tour formé d'ailleurs, certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. Vous avez obtenu une maîtrise d'histoire, vous êtes l'auteur de nombreux articles, notamment dans le bulletin des bibliothèques de France, le bulletin d'information de l'ABF ou la revue Bibliothèque. Et on trouve ces travaux consignés sur votre site internet professionnel www.lahari.fr/pro. Vous tenez également un blog, vous avez été vice-président de l'ABF et vous vous occupez toujours activement de la commission réseau de l'ABF, Association des bibliothécaires français, et vous avez également présidé aux destinées de l'IABD, Interassociation, Archives, Bibliothèques, Documentation. Alors Dominique Lahari, nous avons eu l'occasion d'en discuter, il existe une littérature qui est encore assez limitée sur le sujet des réseaux de lecture publique. Alors cette mise de réseau est en passe de devenir vraiment l'horizon, hein, et peut-être même déjà la réalité commune de la lecture publique en France. Comment en êtes-vous venu personnellement à vous intéresser à cette question et quel rôle jouez-vous au sein de la commission bibliothèque en réseau de l'ABF dont on vient de parler?
Alors, il y a ces appétences personnelles ou sa formation. Moi, j'ai une formation historique et géographique au départ à l'université et j'ai eu de plus en plus, travaillant en collectivité locale, un gros intérêt pour les politiques publiques et leur mise en œuvre. Et puis, sauf que j'habite depuis 1987 une ville nouvelle, Cergy-Pontoise, et les villes nouvelles, c'est les ancêtres des intercommunalités telles dont on parle actuellement. Mmh. Elles ont préfiguré, d'ailleurs, toutes les solutions dont on parle à propos de la lecture publique ont été préfigurées par l'ensemble des expériences des villes nouvelles inventées dans les années 70. Et puis, j'ai eu la chance de travailler pour un département, le Val-d'Oise, qui, après la loi Chevènement de 1999, a eu une politique absolument volontariste d'aider à accoucher les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Et donc, j'ai accompagné ce travail, j'ai appris, il y avait un collègue que j'ai beaucoup apprécié, auquel j'ai beaucoup appris, Michel Mainpontel, qui était un peu l'accoucheur des interco. Mmh. Et donc, j'ai eu une appétence pour ce sujet d'une façon généraliste, si vous voulez, hein. Et j'ai vu que ça s'appliquait absolument parfaitement à la lecture publique parce que, comme on va le voir tout à l'heure, il y a tout à y gagner et à prendre cette voie et c'est ce qui se passe de plus en plus sur le territoire national. Alors, pour ce qui concerne la commission bibliothèque en réseau, son origine, ça a été dans le groupe Île-de-France de l'ABF, Association des bibliothécaires de France, un groupe de travail sur la réforme territoriale. On a, à partir des années de 2010, les présidents Sarkozy et Hollande ont été les années de lois successives de réforme territoriale. Et donc, en Île-de-France, il y avait beaucoup d'enjeux sur la construction de ces nouvelles intercommunalités. Et donc, on s'y est attelé beaucoup. Et puis, finalement, ce groupe, il s'est nationalisé parce que partout, on parlait de ça. Et donc, on est devenu un groupe national sur la réforme territoriale. On a suivi de près les lois successives. Et puis, on a enlever ce terme qui est un peu conjoncturel pour appeler cette commission Bibliothèque en réseau, qui compte une vingtaine de membres. Je crois même que c'est la commission la plus importante en nombre de l'Association des bibliothécaires de France. Alors, ce que j'y fais, c'est que je coordonne et j'administre le blog où nous publions notamment les fiches qui sont très lues, des fiches pratiques, thématiques, qui balayent un petit peu l'ensemble des questions qui concernent l'intercommunication de la lecture publique. Mais c'est un travail très collectif parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs de ces fiches et nous travaillons ensemble en se réunissant deux fois par an et grâce aux technologies actuelles, en utilisant des documents partagés, on fait de l'écriture collective, on fait de la production, on répond aux collègues, etc. Voilà. Et donc, le rôle est de coordonner, de faire que ça fonctionne, mais c'est vraiment un travail collectif.
D'accord. Et donc, je donne l'adresse pour nos auditeurs, c'est www.bibanreseau, tout attaché, et au singulier, bibanreseau.abf.asso.fr. Et il y a effectivement une boîte à outils qui est très, très, très précieuse. On disait peu de sources pour penser cette mise en réseau des bibliothèques. Et vraiment, là, le site de la commission de l'ABF est tout à fait remarquable de ce point de vue pour toutes les données qu'on peut y trouver. Alors, pour le titre de notre émission, j'ai choisi une formule que vous avez contribué à diffuser. Le réseau, tout le monde y gagne. Pourriez-vous préciser un petit peu cette idée force?
Alors, je ne dois pas être l'auteur de cette formule. Elle est apparue quand nous avons travaillé ensemble pour une plaquette, parce que nous faisons des fiches qui sont faites pour les collègues, mais aussi les DGA, les directeurs généraux, etc., éventuellement des élus, qui sont un petit peu austères dans leur présentation. Il nous faut une plaquette un petit peu plus publicitaire, si vous voulez, un outil de communication. Et donc, on a fait cette plaquette qui popularise l'idée de mise en réseau des bibliothèques. On cherchait une formule et de nos discussions a surgi cette idée, la mise en réseau, tout le monde y gagne. Alors, on pensait d'abord aux élus, parce que cette plaquette s'adresse, dans notre idée, d'abord aux élus. Les élus sont d'abord municipaux, ils se présentent toujours, sur la base de programmes municipaux, sur la base d'équipes municipales, et c'était l'idée de dire, eh bien, vos administrés, votre population va y gagner aussi à cette mise en réseau, avec un double intérêt, intérêt pour les services à la population, y compris la vôtre, et intérêt pour la gestion de vos établissements. C'est l'idée du double intérêt de l'intercommunalisation, c'est meilleur service, mais à meilleur compte, avec à terme, progressivement, mais une meilleure utilisation de l'argent public, ce qui est à ne pas négliger. Ensuite, nous avons pensé aux collègues, parce que les collègues aussi partent d'une culture communale, ou plutôt d'une culture chacun dans sa bibliothèque, si vous voulez, c'est normal. Oui. Pendant des années, on fonctionnait avec l'horizon sa bibliothèque, on voyait assez peu les autres, et donc c'est de dire, évidemment, ça demande un effort de changement de travail, on va peut-être en reparler, mais si la mise en réseau, vous allez trouver que vous y gagnez. D'abord, vos usagers vont y gagner. C'est une grande motivation d'être motivé par la satisfaction des usagers. Et ensuite, dans votre travail, petit à petit, ça va être quelque chose de plus intéressant que de travailler à une échelle plus vaste que celle où vous étiez jusqu'ici cantonné. Voilà un petit peu le double message.
Ok. Les évolutions administratives et politiques font que les réseaux intercommunaux de lecture publique, Dominique, sont finalement une évolution logique. Ils accompagnent finalement même un mouvement de métropolisation plus global de la France. Mais les réseaux de lecture publique se défient de ces schémas et on le voit se développe tout autant dans le monde rural où a débuté cette recomposition territoriale. Est-ce qu'il y a une spécificité des réseaux de lecture publique urbains ou métropolitains au regard de ceux qui sont développés dans les aires plus rurales?
Alors, d'abord, c'est intéressant de soulever cette question rural-urbain, et vous l'avez signalé, vous avez raison, pour moi, la lecture publique intercommunale, à part les précurseurs qui sont les villes nouvelles, qui sont bon, par définition de l'urbain, même si c'était de l'urbain catapulté dans une campagne préexistante, eh bien, avec la loi de 92 qui a créé la communauté de communes, puis celle de 99 qui a systématisé l'intercommunalisation avec la loi Chevènement, j'ai vu d'abord se développer en milieu rural ces mises en réseau, même en dehors d'établissements publics de coopération, on a vu des CIVU ou des CIVOM qui géraient des bibliothèques. Donc ça a été très actif dans un certain nombre de régions, c'était très différent suivant les régions, plus d'ailleurs dans l'Ouest que dans le Sud-Est par exemple, pour un petit peu simplifier. Et puis ensuite, les lois successives de réforme territoriale n'ont qu'in fine mis l'accent sur les métropoles, d'abord en créant ce type de PCI, puis en élargissant. Mais dans le débat public, on a l'inquiétude sur la métropolisation, est-ce que tout va aller toujours aux mêmes populations, aux mêmes zones les plus favorisées? L'idée d'intercommunalisation de la lecture publique, c'est une idée d'égalité d'accès. Et donc c'est une égalité, chacun, où qu'il soit, dans les territoires d'ailleurs, et éventuellement les moins denses, les plus ruraux, doit pouvoir avoir accéder au même type de service. et l'intercommunalisation de la lecture publique permet non pas d'atteindre ça absolument, mais d'aller vers ça. Ensuite, ce qui est différencie peut-être, c'est que une grande partie de la lecture publique rurale, notamment en petites communes, est à base d'une partie des agents de cette lecture publique sont des bénévoles. Il faut le savoir, on se flatte du fait qu'il y ait 1700 en gros bibliothèques en France, que c'est la ministre de la Culture l'a rappelé encore récemment, c'est le réseau, le plus grand réseau, le réseau le plus dense culturel en France.
Oui,
il n'existerait pas sans cette multitude de points assez fins, ce maillage assez fin qui existe, qui est plus fin d'ailleurs que dans d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, j'ai un peu étudié là-dessus. Et une partie sont avec des bénévoles dans les plus petits, en gros dans les communes de moins de 3000 habitants, on a une majorité. Donc ça c'est une spécificité. Et donc les réseaux intercommunaux qui sont à dominante rurale ont cette réalité qui est extrêmement prégnante, auquel on est habitué en quelque sorte, mais parfois la ville-centre l'ignore. Et donc les collègues de la ville-centre découvrent en quelque sorte la brousse et vont à faire avec cette réalité. Donc c'est un petit peu, voilà, il y a cette spécificité. Et puis les grandes villes, parfois, les plus grandes villes, les métropoles, sont parfois les dernières à se découvrir qu'elles ont un pourtour, une périphérie. Hein. Donc c'est parfois les plus en retard pour nouer des contacts avec leur périphérie. Sinon, sur le plan, si vous voulez, fonctionnel et sur le plan de l'économie des services, l'ingénierie, si on veut, ce sont les mêmes solutions absolument qu'on développe à la campagne qu'à la ville. On va parler de bases de catalogues communs, de systèmes informatiques communs, de navettes, de circulation, de mutualisation des collections. On va parler d'actualisation ou de coordination des politiques culturelles, etc., d'harmonisation des heures d'ouverture. Toutes ces problématiques, toutes ces solutions, l'éventail des solutions est absolument le même à la ville qu'à la campagne. Mais le contexte humain, si vous voulez, hein, les notions de ressources humaines dont j'ai parlé un petit peu, diffèrent. Et puis, à la ville, dans les grandes villes, on a ces grandes équipes hein, qui sont un petit peu spécifiques. Hein. Donc, le mode de management est un peu différent. Mais je dirais que pour l'usager, ça revient au même hein, dans l'amélioration des services.
Oui, dans les services offerts. Oui.
Voilà.
Moi, j'ai l'impression que les aires rurales, Dominique, vous allez me dire votre sentiment là-dessus, mais que les aires rurales ont peut-être plus vite compris parce qu'elles sont peut-être plus intéressées finalement à la question de la qualité de vie au quotidien. La plus-value que ça pouvait représenter. C'est vrai qu'effectivement, du point de vue des intercommunalités, ça s'est aussi souvent traduit par une grosse bibliothèque qui absorbait des satellites et cette logique véritable de réseau. En tout cas, ça n'a pas fait sens tout de suite. Ça a plus vite fait sens, je pense, dans les campagnes où la question de la qualité de vie, la question aussi des transports à l'échelle d'un bassin de vie sont peut-être plus prégnantes, y compris dans l'esprit de la population.
Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et en milieu rural, on est tout de suite plus de plaintier avec les politiques générales hein, de population, tandis qu'il peut y avoir une espèce d'entre-soi de bibliothèque hein, qui, avec une trop grande cohérence interne qui empêche un peu d'être ouvert à l'ensemble des problématiques qui se posent pour les populations et donc pour les élus. Voilà, ça c'est certain.
Donc on l'a évoqué, Dominique, les réseaux de lecture publique sont en train d'impulser des changements majeurs dans la gouvernance des bibliothèques territoriales. Je pense notamment au contrat territoire lecture qui se développe ou à la question du management également. Qu'est-ce qui différencie les réseaux intercommunaux des réseaux municipaux des grandes BM de naguère finalement? Parce que les grandes BM étaient déjà finalement un peu instituées en réseau.
Alors ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que sur un plan, on va dire juridique, il n'y a aucune différence entre un réseau municipal, par exemple d'une grande ville, avec une centrale annexe, comme on parlait autrefois, ou plutôt plusieurs lieux, et puis un réseau. Alors, une partie des réseaux intercommunaux de bibliothèques sont transférés, c'est-à-dire que le patron des bibliothèques, c'est le président de l'interco. Hein. C'est une des solutions, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a beaucoup d'interco qui fonctionnent autrement. Mais celles qui fonctionnent ça, juridiquement, c'est la même chose qu'un réseau municipal. Je n'oublie pas non plus les communes nouvelles. Il y a eu, dans une partie des régions françaises, des départements, un fort mouvement de fusion de communes ces dernières années, favorisé par des lois spécifiques. Et là, on s'est retrouvé avec, effectivement, des réseaux qui devenaient communs, hein, non plus intercommunaux, mais communaux, à partir de communes différentes. Une des grandes différences, c'est l'historique. Parce qu'on a un historique assez frais qui est différencié dans ces réseaux issus de transferts ou de fusion de communes. Oui. Tandis que donc ça, c'est tout à fait différent sur le plan psychologique, sur le plan politique, mais sur le plan systémique, c'est un petit peu la même chose. Donc, on peut dire aussi que les grandes communes avaient expérimenté les différentes solutions. Mais parfois, pour ne rien faire, combien de réseaux purement communaux avaient très peu, finalement, de mutualisation entre ces différentes cellules, entre ces différents lieux, hein? avec une quasi-indépendance, etc., avec très peu de mutualisation, très peu de gains de productivité, en quelque sorte. Hein. Ça existait aussi.
Un management
hein.
qui restait vertical malgré tout. Hein.
Voilà, voilà. Et donc, l'effet réseau n'était pas forcément là où il aurait pu l'être. Alors là, je voudrais parler d'un problème qui est très important. C'est là où il y a des difficultés, c'est quand il y a une commune ou alors une centrale dans une ville qui domine les autres. Et donc, il y a une grande difficulté à chacun de se sentir membre d'un même réseau quand il y a un gros qui écrase les petits. Et vous avez un phénomène psychosociologique, si vous voulez, qu'on observe chez les élus d'ailleurs, ou chez les administrateurs, chez les bibliothécaires, de complexes petits-gros. Les gros ne voyant pas les petits comme légitimes, etc. Et les petits disant, on va se faire bouffer si on se met en réseau. Et donc, oui. Tout le travail est d'aller contre ce complexe. Les réseaux, finalement, où ils ne se posent pas parce qu'ils sont multipolaires, parce qu'il n'y a pas une domination comme ça, sont beaucoup plus simples. Il y a, par exemple, actuellement des grandes intercos rurales, hein, où il y a quelques bourgs, mais il n'y en a aucun qui domine. On n'a pas du tout cette difficulté psychologique-là. C'est une des difficultés principales à vaincre avec le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour se dire, le réseau, c'est le réseau de tous. Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il y ait, dans ces cas-là, la direction ou la coordination du réseau ne soit pas dans la bibliothèque la plus importante. Souvent, je dis, il ne faut pas qu'il y ait une bibliothèque qui soit la chef des autres bibliothèques. Vous voyez ? On a un réseau commun et on appartient tous et tout le monde gagne et tout le monde contribue au réseau.
Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, tandis que vous parlez de ça, ça me vient, c'est qu'on retrouve un petit peu cette dynamique, toute proportion gardée, qu'il y avait dans les contrats ville-lecture dans les années 80, à l'échelle d'une ville, c'est-à-dire cette idée que la lecture publique, c'est une affaire citoyenne, c'est une affaire importante et qu'on va en faire quelque chose de central, qu'on va même faire, d'ailleurs, du point de vue des intercommunalités, une prise de compétence, même si elle est optionnelle. Donc ça remet quand même la lecture publique au centre du jeu. Ça me paraît de ce fait-là aussi très très important d'un point de vue politique pour les bibliothèques publiques.
Alors c'est très bien qu'elle soit au centre, mais attention, au centre avec tout le monde. Donc la lecture publique, c'est un moyen d'apporter des services aux populations. Il y a d'autres services, d'autres politiques. Enfin, souvent je parle du fait que la lecture publique, c'est un peu au carrefour de politiques sociales, éducatives, culturelles. Oui. Et donc c'est en coordination avec les autres politiques, tout fait ventre en quelque sorte. Alors un des dangers que peut porter l'intercommunalisation, c'est que si vous voulez, une interco, elle a des bouts de compétences. Hein. Et parfois, le service culturel reste communal ou un service social, etc. Et il ne faut pas perdre ce lien. Donc une interco n'est jamais que l'union des communes. Parfois, on a systématiquement une espèce de coupure parce que, par exemple, quand les bibliothèques ont été transférées, elles ne sont plus associées à des politiques municipales. Et donc, on perd de l'efficacité et de la compréhension politique des services globaux aux populations. Voilà. Oui. Donc, il y a un petit peu des alertes à se donner sur un point comme ça.
Alors, parmi les conséquences de ce mouvement, hein, de cette mise en réseau de la lecture publique en France, on parle désormais beaucoup d'un nouveau métier qui est celui finalement de coordinateur de réseau de lecture publique. Quelles sont les qualités requises, Dominique Lahari, pour exercer ce nouveau métier de bibliothécaire à l'échelle des bassins de vie?
Alors, l'échelle des bassins de vie, on sait très bien qu'il n'y a jamais correspondance exacte entre périmètres intercommunaux et bassins de vie. D'ailleurs, les périmètres intercommunaux ont beaucoup changé, trop à mon goût, hein, ces dernières années. Mais du moins, ça rapproche plus que les frontières communales. Les gens ne vivent pas à l'échelle de claquemurée dans les frontières communales. Bon, mais la coordination est apparue. D'abord, c'est intéressant en milieu rural et maintenant se développe en milieu urbain. La coordination, ce n'est pas la direction. Donc, beaucoup de réseaux intercommunaux unissent des bibliothèques qui restent municipales. Donc, il faut les coordonner et non pas les diriger. Et même quand il y a une partie des bibliothèques qui sont intercommunales, d'autres communales ou toutes intercommunales, il y a une notion quand même de coordination. Donc, il arrive que parfois on distingue comme ça la direction et la coordination. Ce métier-là, il ne faut pas faire peur du tout aux collègues qui l'exercent. C'est un métier effectivement qui a priori demande beaucoup de qualité parce qu'il faut faire de l'écoute non directive, il faut essayer de faire de la transmission de savoir qui ne soit pas verticale, il faut être facilitateur sans forcément faire soi-même, et puis faciliter, c'est un métier de patience, une lente émergence de fabrication d'une culture commune. Et donc c'est un métier qui nécessite une grande ouverture de management non vertical justement. Hein. Mais c'est quelque chose qui est très à la mode, donc c'est absolument passionnant. Mais bon, ce n'est pas forcément facile, et on est d'abord et avant tout sur l'humain en gros. Sauf que à ces coordinateurs, on demande des tas de choses. D'ailleurs, la commission dont je fais partie est en train de rédiger une fiche sur la coordination, mais on prend son temps parce qu'on essaye de recueillir des fiches de poste et ça part un peu dans tous les sens. Et ces coordinateurs sont parfois chargés de tâches, par exemple de mise en œuvre, par exemple d'informatique ou de faire des tâches centralisées qu'il vaut mieux de faire une seule fois plutôt que partout dans les bibliothèques, etc. Donc il y a un très très grand mélange sur ces profils de coordination. Mais si on laisse la coordination pure, elle reste à mon sens nécessaire, même dans un réseau complètement homogène, hein, purement intercommunal, voire communal si on veut, et c'est ce travail de fabrication progressive de l'esprit réseau en quelque sorte, hein, et du fait que les compétences, au lieu de servir à un lieu, soient mutualisées. Voilà, en gros, voilà. C'est un des aspects de tout le monde y gagne, c'est que les compétences de chacun peuvent servir à une plus vaste échelle.
C'est assez étrange, Dominique, finalement, ce nouveau métier, il se rapproche assez des référents territoriaux des bibliothèques départementales de près, dont on avait annoncé sans doute beaucoup trop tôt le déclin, finalement. Hein, c'est une façon de percevoir la lecture publique sur les territoires, ou à l'échelle en tout cas de territoires plus larges, qui du coup, de fait, se démocratise, devient un petit peu la norme.
Alors, oui, c'est vrai que j'ai travaillé en bibliothèque départementale. Il se trouve que la moitié des membres, je crois, ou presque la moitié des membres de ma commission ABF, travaille en bibliothèque départementale et l'autre moitié en réseau intercommunal. Bon, les départements, la suppression des départements a fait long feu, c'est un problème global hein, de politique publique. Donc, les départements sont toujours là, donc il y a toujours un rôle pour les départements. Mais c'est effectivement, les départements sont facilitateurs de la mise en réseau en quelque sorte. Hein. Auparavant, les départements étaient dispensateurs verticaux de services en gros, hein, ce qui tendanciellement empêchait les gens de s'organiser de façon autonome, les territoires de s'organiser. Donc, la logique s'est inversée. Et donc, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais il faut que les départements ne prennent pas la place, si vous voulez, hein, des intercos pour se construire. Hein. Donc, bon, toute la subtilité est là. Mais c'est vrai qu'il y a de la ressemblance. Et d'ailleurs, des agents peuvent passer d'un rôle à l'autre, hein, par mutation, je pense, assez facilement.
Pour conclure, Dominique, il semble que la construction des réseaux territoriaux de lecture publique, finalement, n'obéisse à aucun modèle stéréotypé. Est-ce à dire qu'ils dépendent beaucoup de la volonté des bibliothécaires eux-mêmes sur le terrain?
Alors, il n'y a pas de modèle, c'est un des slogans de la commission auquel je participe. C'est une compétence absolument partagée, parce que ce n'est pas une personne, moi ou d'autres, qui aurait imposé, etc. Non, plus on travaille, plus on est persuadé qu'il n'y a pas de modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a un éventail, le contexte intercommunal, avec la façon dont sont écrites les compétences, est extrêmement souple. Et on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut transférer toutes les bibliothèques à l'interco ou les laisser communales. On peut avoir une base commune, une carte commune ou garder les cartes municipales. On peut faire de la coordination culturelle ou la faire chacun dans son coin. Bon, tout est possible. Et donc, ce qui donne une liberté aux acteurs. Alors, est-ce que ça dépend de la volonté des bibliothécaires? Je dirais pas seulement. Ça dépend d'abord de la volonté des élus. C'est une question de politique publique et on est là dans un contexte de collectivité territoriale. Donc l'intercommunalisation de la lecture publique, ça dépend aussi d'une volonté politique. Ensuite, c'est aussi les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, les cadres dirigeants des collectivités qui doivent aussi donner leur point de vue. Et les bibliothécaires, ils ont un rôle important pour, s'ils en sont persuadés, montrer que c'est possible. Et il se fait ce qu'on appelle maintenant du benchmarking, il se fait beaucoup de voyages ou de visites. Rien n'est plus intéressant que d'aller avec des élus, aller dans une autre communauté de communes pour voir ce qui s'est passé, comparer, oui. Etc. Les solutions qui vont finalement être adoptées, qui vont se dérouler dans le temps, et parfois on va changer on va aller plus loin qu'on imaginait, elles vont dépendre d'un contexte local. Les contextes locaux sont différents, les territoires, si vous voulez. Mais c'est aussi la volonté des acteurs, la volonté des politiques et la volonté des professionnels, qui vont parfois de pair, parfois il y a un décalage entre les deux, et c'est ces différences de volonté qui vont expliquer les différences de solutions. Au bout du compte, les bénéfices pour les usagers peuvent être à peu près les mêmes. Moi, je suis dans un réseau où les bibliothèques sont restées municipales. Bon, j'ai les mêmes services, en gros, que si tout était à la communauté d'agglo, hein. Donc, en gros, les usagers voient moins de différences, mais ce sont des modes de gestion et de management différents.
Eh bien, Dominique, je vous remercie mille fois pour nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien. J'espère qu'on aura réussi à vaincre, qui sait, les réticences de certains qui s'apprêtent à basculer dans le monde étrange de l'intercommunalité ou le ou des réseaux de bibliothèques. Voilà, je vous engage à vous intéresser donc au site Bibliothèque en réseau, hein. J'ai donné l'adresse web, hein, www.bibenreseau.abf.asso.fr, où officie Dominique Lahari. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Fréquence T, la web radio des territoriaux, et moi je vous retrouverai pour un prochain Grain de Causette en janvier 2021 autour du patrimoine industriel. Voilà, à très bientôt, au revoir.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.